Il y a juste 6 semaines, c'était jour de fête dans l'église. 4 jeunes filles qui passaient par les eaux du baptême. Et aujourd'hui, c'est encore un jour de fête, puisque 4 jeunes nous rejoignent dans l'église après avoir passé par le cathède. Alors ces 4 jeunes, nous avons vu les 4 jeunes en question, Cécile, Benoît, Matthieu et Philippe, qui terminent donc ces 2 ans de catéchisme. Et c'est une joie pour toute l'Église, car ces jeunes, j'en suis certain, ont le désir de marcher avec leur Seigneur sur le chemin de la vie. Quant à nous, les aînés, nous sommes là pour les entourer, pour partager ce moment avec eux, mais aussi pour prier pour nos jeunes. C'est notre responsabilité à nous les aînés de prier pour nos jeunes. Mais ce matin, nous sommes aussi là pour dire à Dieu notre reconnaissance pour sa fidélité envers l'Église, mais aussi envers les familles de nos 4 jeunes. Car j'ai la certitude que dans ces familles, on a prié, on a entouré ces jeunes afin qu'ils puissent découvrir la grandeur de l'amour de notre Seigneur. Ce Seigneur qui veut les conduire par son Esprit sur le chemin de l'éternité. Car en effet, c'est premièrement à nous parents, voire aussi grands-parents, de transmettre à nos enfants ou à nos petits-enfants ce que nous avons nous-mêmes reçu. C'est déjà ce que l'Éternel demandait aux enfants d'Israël dans le désert avant d'entrer dans le pays de la promesse. Dans Deutéronome 6, verset 7, « Ces commandements que je t'adresse, Israël, serre-les dans ton cœur et tu les inculqueras à tes enfants. Tu en parleras quand tu seras à la maison, quand tu seras en voyage, à ton lever et à ton coucher. » Tout un programme pour nous, parents responsables. Dans une lettre intime, Paul s'adresse au jeune Timothée. « Je garde le souvenir de la foi très sincère qui est en toi, qui habita d'abord dans ton aïeul, Loïs, et dans ta mère, Eunice. Transmission de la parole d'une génération à l'autre. Ne jamais lâcher le flambeau. » Et j'aimerais lire là un récit qui intéressera aussi les enfants. C'est la prière de mon petit-fils, c'est le titre de cette lecture. La prière de mon petit-fils, je lirai juste le début de ce récit. Il est tiré d'un calendrier de méditation quotidienne. Il était déjà tard, et c'était bien le moment pour Patrick d'aller au lit. Il embrassa gentiment sa maman et son papa, c'est vrai, les enfants, d'accord. Il embrassa aussi sa mamie et lui dit, « Bonsoir, mamie, je vais me coucher. Est-ce que tu n'as besoin de rien ?»« Non, mon petit, mais pourquoi me demandes-tu cela ?»« Mais parce que je vais faire ma prière. » Un enseignement qui a été bien transmis. Aujourd'hui, j'aimerais tout particulièrement remercier nos moniteurs d'école du dimanche, qui, semaine après semaine, prennent en charge nos jeunes enfants pour orienter leur jeune vie vers celui qui désire être leur Seigneur et leur Sauveur. C'est un travail magnifique, accompli fidèlement, avec patience et dans une grande discrétion. Oui, merci, chers moniteurs, et que Dieu vous bénisse dans ce ministère. Puis, pour nos jeunes, après l'école du dimanche, vient le temps du catéchisme, temps d'approfondissement et de connaissance de la parole de Dieu. Alors, merci à notre couple pastoral, qui est accompagné de Xavier, ont assumé ce ministère qui nous permet aujourd'hui d'accueillir nos jeunes dans l'Église. Ces jeunes qui vont maintenant rejoindre le groupe de jeunes de l'Église. le groupe de jeunes de l'Église. C'est l'âge où, plein d'enthousiasme, on forme plein de projets. Or, notre Seigneur désire être dans vos projets de vie. Je me souviens avec reconnaissance que lors de mon adolescence, notre chère mère nous a souvent répété ce verset d'Ecclésiaste 12, le verset 3. « Souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais ne viennent, où tu diras « Je n'y prends point de plaisir ». Chers jeunes, souvenez-vous que la lecture régulière de la Bible vous aidera à affronter la vie dans les bons et les mauvais jours. Elle vous armera pour les jours difficiles. Elle vous fera grandir dans la connaissance de notre Seigneur et vous permettra d'être disponible pour écouter la voix de l'Éternel, comme ce fut le cas du jeune Samuel. Dans l'évangile de Jean, Jésus prend bien soin d'avertir ses disciples des difficultés de la vie. Vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Alors, serait-il nécessaire pour le chrétien de passer ou de connaître l'épreuve? Je propose la lecture de Matthieu 14, versets 22 à 31, et c'est Xavier qui fera la lecture.
Voilà, les enfants, les jeunes, et tout le monde avec ma moyenne d'âge, écoutez bien, c'est la Bible. Il y a des choses incroyables dans la Bible. Juste là, le passage que Bernard m'a donné à lire, c'est juste après un assassinat, et puis c'est juste après un assassinat dans la Bible, qui s'appelle Jean-Baptiste. Si vous voulez, on peut regarder après où c'était, c'est intéressant. Ensuite, il y a la multiplication des pains, et ensuite on arrive à notre passage dans Matthieu 14, à partir du verset 22. On vient d'avoir la multiplication des pains. Aussitôt après, Jésus obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Quand il eut renvoyé la foule, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là, seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. À la quatrième veille de nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et ils dirent, « C'est un fantôme !» Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Pierre lui répondit, « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et Jésus dit, « Viens !» Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et, comme il commençait à enfoncer, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et ils montèrent dans la barque, et le vent cessa.
Il y a dans ce texte que Xavier vient de nous lire, un verbe employé par Jésus qui étonne, un verbe que l'on trouve que deux fois dans toute la Bible, soit dans Matthieu, comme on l'a lu tout à l'heure, et dans Marc. Ce verbe, c'est obliger. Jésus obligea ses disciples à remonter dans la barque pour passer sur l'autre rive. Les deux seules fois où ce verbe employé est utilisé dans la Bible, il est par Jésus à l'égard de ses disciples. Pourquoi Jésus oblige-t-il ses disciples à remonter dans la barque? Jésus a-t-il rencontré de la résistance de la part de ses disciples? résistance peut être justifiée, car ces hommes, qui étaient des hommes de la mer, qui étaient des pêcheurs, connaissaient parfaitement les signes annonçant l'orage. Alors, la chose aurait-elle échappé à Jésus? Jésus aurait-il oublié de consulter la météo? Certes pas, mais dans sa responsabilité de former et préparer ses disciples au ministère auquel ils seraient appelés dès la Pentecôte, il y avait pour chacun d'eux un passage obligé qui se nommait « tempête dans la nuit », « flot déchaîné », « peur et doute » et peut-être même « la mort en face ». Dans la vie du chrétien, il y a aussi parfois des passages obligés qui s'appellent « tempête »,« orage » et « flot déchaîné ». J'ai ici l'histoire d'un jeune homme né à Londres en 1725. Le livre s'est affranchi. Je ne sais pas s'il y en a qui l'ont lu. Je vous le recommande tout particulièrement. Voici un petit peu brièvement l'histoire de ce John Newton. Son père était officier dans la marine britannique, de la marine marchande, donc souvent absent. Le jeune enfant, John, fut élevé par une mère chrétienne qu'il eut le malheur de perdre à 7 ans. Et ce fut un très grand chagrin pour cet enfant. Loin de l'affection de cette mère merveilleuse, et malgré l'éducation reçue, très vite, John tomba dans le mal, la perversion et la débauche. Encore jeune, il fut engagé dans la marine marchande, puis dans la marine de guerre, donc la Navy. Une vie dépravée s'en suivit jusqu'au jour où John dut affronter une tempête qui fut la pire de sa vie de marin. Alors que les flots déchaînés passaient par-dessus bord au risque de le projeter dans la mer, alors que ses chances de survie étaient quasiment nulles vu la tempête, John se souvint des prières de sa mère et des récits entendus alors qu'il était enfant, assis sur les genoux de sa mère. Et c'est dans l'angoisse de cette nuit d'épouvante, de violence, que John cria à Dieu et plia le genou. Ce ne fut certes pas la fin de ses luttes et tourments, mais sa vie changea complètement de direction. Bien des années plus tard, enfin marié avec celle qu'il attendait depuis son adolescence, John fit la connaissance d'un autre chrétien, Wilberforce. Les deux hommes luttèrent ensemble avec persévérance et succès pour l'abolition de l'esclavage en Grande-Bretagne. Une vraie révolution dans le monde anglo-saxon. Miracle de la conversion de cet homme, si l'on sait que John Newton fut à une époque de sa vie capitaine sur le bateau transportant des esclaves d'Afrique vers les Caraïbes, vers les Antilles, Amérique du Nord et Amérique du Sud. Plus tard, devenu pasteur, il occupa la chaire de la paroisse la plus influente de Londres. Si j'ai fait le bref résumé de la vie de John Newton, c'est pour montrer que nos tempêtes, passages obligés, sont toujours dans les mains de notre Seigneur. Le récit de la tempête apaisée que nous avons lu dans Matthieu nous montre que Jésus fit preuve d'autorité en obligeant ses disciples à prendre la mer alors que lui, Jésus, montait sur la montagne pour prier. Pour prier pour qui? Je crois que poser la question, c'est connaître la réponse. Là, sur la montagne, Jésus vit. Jésus a vu que ses disciples avaient de la peine à ramer. Il a vu qu'ils avaient à lutter contre un vent contraire. Et c'est alors que Jésus décida de les rejoindre. Chers amis, dans la vie, il y a des tempêtes auxquelles on ne peut pas échapper. Des tempêtes qui s'appellent passage obligé, où la peur, le doute, l'angoisse, voire la culpabilité, et même la colère ou la révolte, s'emparent de l'être éprouvé. Alors que les flots déchaînés vous couvrent de leur écume. Pourtant, sur la montagne, quelqu'un veille et prie. Il sait, Jésus sait que nous avons de la peine à ramer. Il sait que les vents nous sont contraires. Il sait quand les vents nous sont contraires. Et le Seigneur sait, notre Seigneur sait, que le moment est venu de nous rejoindre dans nos tempêtes et dans nos orages. Et ce matin, à chacun de nous, il dit, n'ayez pas peur, c'est moi. Alors à nous de le reconnaître et de le laisser monter dans notre barque, dans votre barque, car il y a place pour notre Seigneur dans notre barque. C'est lui qui va nous conduire, qui vous conduira sur le rivage enchanteur du chemin de la vie, même si parfois il faut passer par le passage obligé. Ce passage obligé, Dieu le permet. Et Jésus lui-même, par amour pour nous, s'est offert et a accepté, lui aussi, de passer par ce passage obligé qui s'appelle abandon du Père, rejet des siens et livré aux païens et finalement mourir sur une croix. Mourir sur une croix afin de nous ouvrir à tous le chemin de l'éternité et d'en tracer le parcours. D'en tracer le parcours. À ce propos, la parabole des talents, chers jeunes, nous rappelle que nous avons tous reçu au moins un talent. À chacun de nous de le faire fructifier. La jeunesse n'est pas un handicap dans la vie. Au contraire, David n'était qu'un jeune berger. Lors de son appel, Jérémie n'était qu'un adolescent. Et l'apôtre Paul, s'adressant au jeune Timothée, que personne ne méprise ta jeunesse, que personne ne méprise ta jeunesse. Et à Gédéon, l'Éternel déclare, va avec la force que tu as, avec la force que tu as, car il a fait la promesse, notre Dieu, d'être tous les jours avec nous. À nous de marcher dans ses voies. Alors, chers jeunes, bon marathon, car la vie chrétienne est réellement une course d'endurance, une course longue distance, où il faut avoir des réserves. Et l'apôtre Paul écrivait aux Philippiens, « Je cours vers le but. » Et aux Corinthiens, « Ceux qui courent dans le stade courent tous, mais un seul remporte le prix. » Alors, courons ensemble, dans le cadre de l'Église, courons ensemble, soyons unis pour remporter le prix. À tous, bon marathon, le Seigneur vous accompagne et sera votre force. Amen. John Newton, dont le récit de sa vie est là passionnant, c'est aussi un roman d'amour. Pendant des années, il a attendu celle qu'il aimait depuis l'adolescence. Ça lui a coûté très cher. Quand il était dans la marine militaire, dans la Navy, il a déserté la Navy, pour essayer de rejoindre celle qu'il aimait. Et sur la route, il s'est fait rattraper par la police militaire, ramené sur le bateau, et il a subi la correction physique, et j'aime autant vous dire, il était plus mort que vif. Et c'est très intéressant de lire toute cette histoire. Je vous recommande le livre, vous le trouvez à la librairie. Alors, il a également composé un chant que nous allons entendre. Il est en anglais, les paroles seront projetées sur l'écran, c'est Amazing Grace. Allons-nous l'écouter.